Donc, le but, c'est pas évidemment d'arriver le faire, parce que je suis pas qualifié pour ça. Je vais plutôt aborder la partie médicale. Je vais commencer d'abord par. Je vais commencer par la lecture de trois ayats, concernant le jeûne. Et après, j'aborderai la présentation et je vous donnerai quelques petits trucs et on procédera après à des questions-réponses. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Donc, Sourate al-Baqara, ayat 182, 183, 184. A'udhu billahi ar-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc là, on a une notion historique du jeûne. Le jeûne nous a été imposé comme il a été imposé à ceux, aux autres communautés avant nous. Et l'ayat se termine par لعلكم تتقون, la crainte. Ensuite vient la ayat suivante. أيام معدودات. Donc c'est quelques jours dans l'année, c'est pas toute l'année. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Là, c'est les exceptions. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Il rattrape. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مَسَكِينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Et ça se termine par إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْعِلْمِ. Donc là, la science va nous démontrer que finalement le jeûne est quelque chose de très bénéfique pour l'être humain, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs études. Alors j'ai ramené ce livre parce qu'il y a plein de références dessus. C'est un best-seller canadien qui parle sur les lois de l'obésité, ceux qui veulent aller finir un petit peu, et qui parle aussi, qui traite la partie. Je vous dirai ce qu'il a marqué sur le ramadan. Alors c'est pas un musulman, mais c'est il a une clinique qui pratique ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais ensuite, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر. On revient sur les exceptions. فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Donc la première se termine par لعلكم تتقون. La deuxième se termine par لعلكم تعلمون. Et la troisième, la'allakum tashkurun. Parce que, quand on a une ni'ma, l'insan, il faut que yishkar. Alors, avant d'aborder le sujet, je vais donner quelques petites généralités qui sont importantes à connaître. Je vais être le plus simple possible. Quand on mange dans l'alimentation, de façon globale, il y a deux groupes. Il y a les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, c'est glucides, lipides, protides. Les micronutriments, c'est vitamines et minéraux. Parmi les macronutriments, les protides vont servir à construire le muscle. Globalement, il y a d'autres fonctions, mais on va résumer ça au muscle. Les glucides et les lipides, c'est de l'énergie, vont fournir de l'énergie. Mais ce sont deux types d'énergie totalement différentes. C'est comme maintenant les voitures hybrides qui marchent avec l'électricité et l'essence. Donc finalement, l'être humain a été hybride bien avant l'invention de la voiture hybride qu'on connaît maintenant. Les vitamines et les minéraux, quant à eux, vont servir à favoriser les milliards de réactions chimiques qui existent dans le corps humain. Et si je dis des milliards, il y en a peut-être plus, probablement, mais c'est une usine, quoi. Alors, au jour d'aujourd'hui, les changements de mode de vie, ils ont généré des maladies modernes, parmi lesquelles l'obésité, évidemment, qui est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée uniquement à l'alimentation, elle est liée au mode de vie, la sédentarité, le manque d'activité physique, le stress, toutes ces difficultés. Et à partir de l'obésité, on va retrouver d'autres maladies qui vont naître, qui sont les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques comme le diabète, etc. Et là-dessus, évidemment, il y a des hommes d'affaires qui ont flairé le business et qui se sont lancés dans les régimes. Donc les différents régimes qu'on connaît, les Dukan, Naturhaus, Herbalife, Atkins, etc. Et souvent, qu'est-ce qui nous disent, même certains professionnels, à l'heure actuelle encore, mangez moins et bougez plus. Ça, c'est une formule un peu culte, qui malheureusement est en train de disparaître parce qu'il y a d'autres éléments scientifiques qui sont apparus, que je vais développer dans ma présentation, et qui vont montrer que finalement, ce n'est pas si vrai que ça. Il y a une part de vérité, mais elle n'est pas totale, cette vérité. Et d'ailleurs, j'en veux comme preuve, c'est que la quasi-totalité des personnes qui s'engagent dans des régimes, ils finissent toujours par reprendre les kilos perdus, voire même un peu plus. Pourquoi ? Parce que, comme je l'avais dit, on a deux types de réserves. On a les réserves glucidiques et les réserves lipidiques. Et les réserves lipidiques, c'est des réserves qui sont importantes, mais qui sont difficilement, ils sont pas faciles d'accès pour accéder aux lipides. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans le détail. Alors, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Quand on mange, qu'est-ce qui se passe ? Quand on mange, le taux de sucre, il augmente. Hein, on appelle ça la glycémie. On a une hyperglycémie. Automatiquement, le corps, qui est doté d'un organe qui s'appelle le pancréas, va sécréter de l'insuline. L'insuline, son rôle, c'est quoi ? Alors, l'insuline, il faut s'imaginer, dans le corps, des milliards de cellules, le sang qui circule dans les vaisseaux, et ce sucre qui circule dans les vaisseaux, il faut impérativement le faire rentrer dans des cellules. Et pour ça, on a besoin d'une clé. Et la clé, c'est l'insuline. Donc, le rôle de l'insuline, c'est ouvrir la porte de la cellule pour stocker le sucre. Mais quand il y a trop de sucre, ben, cet excès de sucre va être transformé en lipides, en gras, en triglycérides. Et il sera stocké au niveau du foie, au niveau de la masse adipeuse, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au jour d'aujourd'hui, notre alimentation, elle est hautement riche en sucre. Et le fait qu'elle soit hautement riche en sucre, on produit beaucoup d'insuline. Et quand on a beaucoup d'insuline, à un moment donné, on fait de l'insulino-résistance. Et quand il y a de l'insulino-résistance, on peut pas accéder aux réserves de gras. Et quand on a le taux d'insuline qui est très élevé, on a toujours faim. Donc on va grignoter et donc du coup, on va prendre du poids. Il faut savoir aussi que l'insuline a d'autres rôles, d'autres fonctions. Parmi ces autres rôles, ce qu'on appelle la lipolyse. La lipolyse, c'est-à-dire accéder aux réserves énergétiques lipidiques pour les transformer en sucre, pour pouvoir les utiliser. Parce que le corps ne peut utiliser que la forme sucrée, on va dire, de l'énergie. Donc, je résume, l'insuline, c'est la clé qui stocke le sucre dans la cellule, mais quand il y a trop de sucre, elle transforme la lipogénèse, elle transforme le sucre en excès en gras. Et pour pouvoir le réutiliser, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup d'insuline, voire très peu d'insuline, pour que ce gras se transforme en sucre. Je ne sais pas si je suis clair, mais bon, je vais continuer. Donc, le type de raisonnement qu'il faut avoir. On va supposer que le sucre, on le stocke dans un frigidaire, et le gras, on le stocke dans le congélateur. Le sucre, il est facilement accessible. Donc, quand on fait un effort, les premières énergies qui vont être dépensées, c'est le sucre. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le frigo. Et quand on a épuisé le stock du frigo, là, à ce moment-là, on va, parce que le stock, il est limité au niveau du frigo. Là, on va passer sur les réserves lipidiques et on va essayer de les transformer en sucre pour pouvoir les utiliser. Donc, conséquence, ben, on vide les réserves et on perd du poids. Quand on fait des régimes modernes, Dukan et compagnie, au fait, on va diminuer les entrées. On mange un peu moins, mais souvent les taux d'insuline restent élevés. Conséquence, ben on n'accède pas au gras. On est toujours que sur le frigo. Le congélateur, il reste inaccessible. Et le corps, il va devoir trouver une solution pour équilibrer ce qu'on appelle l'homéostasie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va dépenser il va réduire les dépenses énergétiques de repos. Et quand il dépend, alors les dépenses énergétiques de repos, c'est très technique peut-être, mais je vais expliquer. Quand un organisme est vivant, même quand il bouge pas, au fait, il dépense de l'énergie. Parce que le cœur, il fonctionne, les yeux, les reins, etc. Et pour ça, il faut de l'énergie. Ça s'appelle les dépenses énergétiques de repos. Donc, quand on fait un régime, qu'est-ce qui se passe? Bah, ces dépenses énergétiques de repos vont être réduites. Et c'est ce qui entraîne le froid, la faim, la fatigue. Et après, au bout d'un certain temps, on peut pas rester sur ce mode. Et c'est pour ça, la quasi-totalité qui s'engage dans des régimes, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, ils sont épuisés, ils peuvent plus, ils reviennent vers leur vieille alimentation. Alors, que se passe-t-il quand on jeûne? Quand on jeûne, au fait, les 2 premiers jours, on va vider toutes les réserves de glycogène qui sont facilement accessibles. Souvenez-vous, ils sont dans le frigo. Et une fois qu'on a passé ces 2 jours, bah, on passe à l'oxydation des graisses pour produire de l'énergie. C'est pour ça que les gens qui sont pas habitués à jeûner dans l'année, les 2 premiers jours du mois de Ramadan, c'est souvent difficile. On a des maux de tête, on a des vertiges, on a des crampes, etc. Parce que l'organisme, au fait, il s'adapte à la nouvelle fonction qu'on met en place. Mais au bout de 2 jours, bah, c'est les graisses qui prennent le relais du sucre pour pouvoir répondre aux besoins de l'organisme. Donc, conclusion, le jeûne, il procure la solution la plus facile pour vider les réserves lipidiques en baissant les réserves en glycogène, en baissant l'insuline, le taux d'insuline, il chute de façon spectaculaire. Et donc, du coup, la lipolyse, elle se produit, c'est-à-dire que les matières grasses, on va dire ça, la graisse de façon globale, va se transformer en sucre pour répondre aux besoins de l'organisme. Alors, pendant le jeûne, la masse maigre ne bouge pas, c'est-à-dire le muscle. Parce qu'il y en a certains qui disaient que quand on jeûne, il y a même des médecins au jour d'aujourd'hui, ils le disent, et ça c'est faux. Je vous le dis parce que, bon, il l'a dit, je suis médecin du sport, donc je travaille avec des sportifs, et je sais comment ça fonctionne. Au fait, le jeûne, il brûle pas la masse maigre, parce que la masse maigre, c'est le muscle, on a besoin du muscle. Et je vous l'avais dit au départ, les protéines, le muscle, servent pour le muscle, ne servent pas pour... C'est, si je fais une petite métaphore, c'est comme si quelqu'un va mettre du bois pour l'hiver, pour faire du feu, et quand il fait froid, ben, il va brûler son canapé. C'est un peu ridicule, c'est un peu l'image de la masse maigre qui ne brûle pas quand on jeûne. C'est plutôt la masse grasse. Alors, sachant que l'obésité est une maladie plurifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes qui interviennent dans le... Mais à prédominance hormonale, souvenez-vous, l'insuline. L'insuline, c'est la clé qui permet de stocker le sucre, mais quand elle est très basse, elle permet de dégrader les acides, la matière grasse, les triglycérides, en sucre, pour pouvoir répondre aux besoins de... En d'autres termes, donc pour donner le signal à l'organisme, le signal de la lipolyse, ben il faut baisser l'insuline. Et l'insuline, le seul moyen de la baisser, c'est de ne pas manger, c'est de jeûner. Alors les avantages du jeûne sont nombreux, mais j'en ai repéré 4, les avantages pratiques. D'abord, c'est simple à mettre en place, parce qu'il n'y a aucune explication. On mange pas, on boit pas. C'est gratuit, hein, contrairement aux différents régimes qu'on va vous vendre à des milliers d'euros ou des centaines d'euros. C'est pratique. C'est pratique parce qu'on va gagner du temps et on va gagner de l'argent parce qu'on fait moins de courses. En fait, on est censé faire moins de courses, ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas. C'est au fait, c'est le message que aujourd'hui j'ai envie de délivrer. Le jeûne n'est pas synonyme de manger. Sachez que ce mois, c'est fait pour que votre corps se repose physiquement et spirituellement. Et c'est l'occasion pour nous, justement, de réduire et de gagner du temps en faisant autre chose qu'on fait pas, bien sûr, de préférence, mais aussi de réduire nos achats. Et puis flexible, les avantages du jeûne. Flexible, parce qu'il peut se pratiquer partout. Et parce que quel que soit le mode alimentaire des uns ou des autres, tout le monde peut pratiquer le jeûne. Quelqu'un qui est végétarien ou qui est je ne sais pas quoi, il peut pratiquer le jeûne. Les gens qui sont allergiques peuvent pratiquer le jeûne. Les gens qui n'ont pas les moyens économiques peuvent pratiquer le jeûne. Les gens qui manquent de temps peuvent pratiquer du jeûne. Ils vont encore gagner du temps. Donc, vous voyez, quand même pas mal de qualités. Le jeûne aujourd'hui, si je dois lui donner une image, c'est une puissance thérapeutique illimitée. C'est-à-dire que quand on prescrit le jeûne, kutiba alaykum as-siyam, quand on prescrit le jeûne, on peut le pratiquer autant de fois, autant de temps qu'on veut, jusqu'à obtenir le résultat nécessaire. Alors que si je me positionne comme médecin et je me propose de vous donner des traitements pour le diabète ou pour l'hypertension, la première étape, c'est déjà de considérer les avantages, les bénéfices et les risques. Parce que dans chaque médicament, il y a des avantages et il y a des risques. Ensuite, il faut voir la dose. Ensuite, on va vous dire, il faut manger avant le repas, après le repas, etc. Par rapport à ces problèmes, justement, d'hormones. Et ensuite, il sera toujours limité dans le temps. Voire inefficace, parce que si je prends le cas des diabétiques qui sont sous metformine, je sais pas s'il y a des diabétiques, bah, au bout d'un certain temps, la metformine ne répond pas. Donc, il faut rajouter un deuxième médicament, et on va compliquer, et puis on va arriver à l'insuline. Bon. Alors, j'ouvre aussi une parenthèse. Beaucoup de cliniques à travers le monde pratiquent ce qu'on appelle le jeûne intermittent dans le traitement des maladies cancéreuses. Alors, pour donner une idée, pour faire simple aussi là aussi, le cancer, les cellules cancéreuses, afanallahu wa iyyakum, c'est des cellules qui sont très énergivores, c'est-à-dire ils consomment beaucoup d'énergie pour qu'ils puissent se répandre dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de sucre. Donc, plus on mange, et plus on mange sucré, plus on va entretenir ces cellules cancéreuses. Et on va accélérer le processus. Et ces cliniques se sont posé la question, si on mettait la personne qui a un cancer sur un jeûne intermittent, alors le jeûne intermittent c'est différent d'une autre, mais viendra le jour où la science confirmera que notre jeûne, il est parce que celui qui nous a fabriqué sait comment on fonctionne, et donc s'il l'a prescrit comme ça et pas autrement. Ils ont, donc je reviens à ces cancers, ils ont mis des gens sous un jeûne intermittent et ils ont remarqué qu'il y avait des rémissions. Donc, ça a confirmé quand même que les réserves sucrées sont parfois dangereuses, voire mortelles. Et je vais même vous dire un scoop aujourd'hui, parce que souvent, beaucoup de médecins disent aux diabétiques qu'il faut pas jeûner. Eh ben si, il y a des diabètes, certains diabétiques de type 2, je le précise, de type 2, peuvent jeûner sous contrôle médical. Je précise de type 2. Alors le type 2, c'est les diabètes qui prennent des comprimés, c'est pas l'insuline. Le type 1, c'est un peu plus compliqué. Et même au jour d'aujourd'hui, il y a des études qui se font là-dessus pour essayer de voir, parce qu'ils ont compris l'intérêt de vider ses réserves en matière grasse. Donc le jeûne, il a le pouvoir finalement de vous rendre votre liberté. Parce que, d'un autre côté, ça c'est un autre sujet que je vais pas aborder aujourd'hui, parce que je suis à la base aussi comportementaliste, c'est le moment de changer de comportement. Parce qu'on change de façon de vie, on change de tout, donc c'est possible de changer aussi les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Profiter de ce mois-ci pour changer ces comportements, ces addictions, etc. Alors, pardon.
Je dis pas que c'est comportement.
Alors pour le rappel, elle est claire, hein, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Sur le plan historique, on a retrouvé des traces de jeûne à plus de 5000 ans. Les Grecs étaient fans de jeûne, alors qu'à l'époque il y avait pas d'obésité, mais parce qu'ils trouvaient de l'énergie quand ils pratiquaient le jeûne et il y avait une sorte de concentration mentale qui leur permettait de faire des choses. Puis toutes les religions ont mis en place des périodes de jeûne. Et je précise, et de festin, pas que de jeûne. Parce que, au fait, c'est un peu logique ce que je vais vous raconter, il y a toujours une dualité. Le jour, la nuit, la maladie, la santé, le jeûne, le vieux, le mâle, la femelle, etc. Et ben, l'alimentation, c'est la même chose. Il y a des périodes où il faut vider, il y a des périodes où il faut charger. Et c'est pour ça qu'à la fin du Ramadan, ben il y a l'Aïd où il faut charger. C'est pas compliqué. Donc les temps modernes, il y a eu la disparition du jeûne progressivement pour des raisons philosophiques, politiques et autres. Ce qui a engendré de façon spectaculaire et même de façon faramineuse l'explosion de l'obésité à travers le monde. Et je suis bien placé pour ça parce que je travaille dans un service de chirurgie de l'obésité. Donc on désemplit pas quoi. On est plein jusqu'à 6 mois. Il y a pas de place. Et cette obésité, malheureusement, elle va causer des problèmes cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, les syndromes métaboliques, tous les diabètes, les dyslipidémies, etc. Et ceci est dû à quoi? Et c'est dû à notre mode alimentaire qui a changé sur le fond et sur la forme, avec les fast-foods, avec la consommation en sucre, les produits raffinés, mais aussi toute la partie industrielle. Donc, dans la production, mais aussi dans le stockage, les frigos, les congélateurs, etc. Parce qu'avant, il n'y avait pas de frigo et de congélateur. Donc, notre corps avait cette fonction. Et c'est ce qui a permis, justement, la survie de l'espèce, de toutes les espèces. Si vous regardez autour de vous, il n'y a pas un seul animal obèse dans la nature. Pourquoi? Parce qu'ils vivent, selon le fitra, ils vivent, ils mangent quand ils ont faim, et ils jeûnent quand ils sont malades ou quand ils sont programmés, ils jeûnent. C'est le cas du phoque, c'est le cas de l'ours, c'est le cas du saumon, c'est le cas de tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle dans un hadith, saumon tasihou. C'est pas compliqué. Bon, il y a plein de choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter pour, peut-être je vais juste donner quelques recommandations par rapport à ce mois-ci, pour histoire de profiter pleinement sur le plan alimentaire. Alors, la première recommandation, c'est vraiment stopper les sucres, arrêter les sucres, mais arrêter de façon nette les sucres. Bien sûr, les sucres ajoutés. En faisant comment? Ben, en lisant les étiquettes. Alors, parfois, les étiquettes sont trompeuses, parce que quand vous regardez sur l'étiquette, il n'y a pas forcément sucre. Alors, vous allez trouver maltose, dextrose, saccharose, etc. Alors, si vous voulez, après, je laisserai la liste chez Cher, il vous donnera tous les noms des sucres, comme ça, vous ferez attention à tout ça. Sachez que les meilleurs desserts restent les fruits frais de saison, de préférence, produits localement. Pourquoi? Parce que les fruits qui sont produits localement vivent dans le même environnement dans lequel on vit. Donc, ils sont conçus pour répondre aux maladies auxquelles on est confronté, aux maladies environnementales, les grippes, les gastro-entérites, etc. Éviter les grignotages, bon, ça pendant le mois de Ramadan, c'est pas le cas, parce que le grignotage va favoriser l'insulino-résistance. Beaucoup de diététiciens mettent beaucoup le poids et de médecins sur le petit déjeuner. Il faut manger beaucoup le matin parce que c'est important. Je vous rappelle que dans le mot petit déjeuner, il y a un mot petit. Donc déjà, faut faire attention à ça. Et privilégier plutôt des aliments entiers et non transformés. Les boissons, alors c'est pas compliqué, c'est l'eau plate, voire gazeuse. Et éventuellement, pour changer, pour le plaisir, le thé, les infusions, le café avec un peu de prudence parce que ça peut être un stimulant. Les bouillons d'os, alors les bouillons d'os, shorba, al-harira, etc., avec des bouts d'os, et avec, vous ajoutez une petite quantité de vinaigre, parce que le vinaigre va permettre d'aider à filtrer les minéraux qui sont dans l'os, et c'est important pendant les périodes de jeûne pour pouvoir profiter de ces éléments-là. Réduire la consommation des céréales raffinées. Alors, les céréales raffinées, c'est comme la farine blanche. Plutôt préférer les glucides naturels, entiers et non transformés. Modérer la consommation de viande. Ça, c'est un peu difficile, mais il faut le faire. Il faut consommer, mais vraiment avec modération. Augmenter la consommation de matières grasses naturelles, l'huile d'olive, les noix, les amandes. Mais attention, pas les amandes grillées, salées et compagnie. Nature. Nature. Et puis augmenter les facteurs de protection qui sont les fibres qu'on va retrouver dans les légumes, etc. Et le vinaigre. Le vinaigre, il a des capacités incroyables. Enfin, je les découvre moi-même, je les ai découverts ces derniers temps. Alors, je vais vous lire juste un petit passage avant de clôturer. C'est un livre hein, d'un Canadien qui pratique le jeûne. Il y a des vidéos YouTube, mais c'est en anglais. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je peux vous donner les liens. Qu'est-ce qu'il dit sur le jeûne du mois du Ramadan? Je vais vous lire texto ce qu'il raconte. Les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil pendant le mois sacré du Ramadan. Bon, déjà, c'est pas sacré, c'est béni.
Et c'est pas rappelé le lever du soleil.
Voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam encourageait aussi le jeûne chaque semaine, le lundi et le jeudi. Le Ramadan diffère des autres protocoles de jeûne parce que les liquides, en plus de la nourriture, sont interdits. Parce que dans le jeûne intermittent, au fait, on a droit à l'eau et les infusions, le thé, etc. Les pratiquants de ce jeûne en particulier souffrent de légère déshydratation. Alors pour ça, et il a raison parce que les études montrent, c'est pour ça qu'il faut plus ou moins, alors il faut pas mettre la salière, mais c'est bien de saler un petit peu parce que ça permet de capter un peu l'eau pendant le mois de Ramadan. Pas pour les hypertendus, hein, les gens qui ont de l'hypertension, pas de sel. Hein. Alors en outre, puisque l'alimentation est permise avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, des études récentes, et c'est documenté parce qu'il y a une grosse bibliographie, indiquent que l'apport calorique quotidien augmente de façon significative pendant cette période. Et là j'ai souligné le gavage, particulièrement à l'aide de glucides raffinés, donc zlabia, shebakia, etc., avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, annule les bienfaits du jeûne. Annule les bienfaits du jeûne. C'est-à-dire que, malheureusement, on jeûne sans science. Et c'est pour ça que, وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. C'est là où la science, elle vient un petit peu apporter ses lumières sur... Donc, annule complètement... Voilà, je pense que j'ai fini. بَرَكَ fikum. Je sais pas s'il y a des questions. Enfin, il y a plein de choses que j'ai pas abordées. Par exemple, l'histoire de l'ordre de l'alimentation. Au fait, les gens au paradis, ils commencent d'abord par les fruits. Et puis ils passent à la viande. Chose qu'on pratique pas. Et ça, c'est devenu quelque chose de classique, de connu, de... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vais faire un effort.
Ça, les questions, c'est parce qu'il manque un peu.
Pour le vinaigre, on peut remplacer par le citron.
Est-ce qu'on peut le remplacer?
Remplacer par le citron? Je ne sais pas. Moi, les études que j'ai, je parle des études scientifiques, ils parlent beaucoup plus du vinaigre. D'ailleurs, je crois de mémoire, mais Shir me confirmera, je crois qu'il y avait Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, qui mélangeait l'huile et le vinaigre. Il mangeait ça avec du pain et l'huile de vinaigre. Je sais pas si...
Comme tu le sais, l'acide acétique, c'est essentiellement le contenu du vinaigre. On le remplace souvent par le citron.
C'est ça.
Mais c'est pas tout à fait pareil. On peut le remplacer par le citron.
Mais le citron, c'est très bon. Parce qu'il y a de la vitamine C, il y a plein d'agrumes, il y a plein...
Ça, c'est une question classique située par rapport aux femmes enceintes. Est-ce qu'il faut qu'elles jeûnent? Est-ce que c'est conseillé qu'elles jeûnent? Est-ce que, voilà. En tant que médecin. Maintenant,
c'est à toi qui... Alors, moi, je me base sur le texte sacré et je me base sur un peu sur ce que dit la, sur les textes quand on lit, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Alors, en principe, dans l'aura, je sais pas s'il y a des arabisants, en principe, لَا يُطِيقُونَهُ. Mais là, hudifat, yotekona hofi diato ta'ami miskin. C'est-à-dire, les gens qui ne peuvent pas jeûner, c'est rester libre un peu aux gens qui sont soumis au jeûne. Faman tatawa'a khayran. Fahuwa khayrun lahu. Wa anta soumu khayrun lakum. Sachez que le jeûne, il est bénéfique. Pourquoi? Parce que le jeûne, de façon classique, va sortir toute la masse, d'énergie qui est resté longtemps, il va vider le corps, en fait. Alors, la femme enceinte, comme d'ailleurs la femme qui allait, ou comme, effectivement, il faut faire attention, il faut avoir une alimentation saine. Il faut éviter les sucres rapides, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on consomme un sucre rapide, on boit un verre de coca ou un verre de, je ne sais pas, de Fanta ou autre, c'est du sucre rapide. Ce sucre rapide, au fait, il va rentrer très vite dans les vaisseaux. Et quand il rentre très vite dans les vaisseaux, il va stimuler la sécrétion d'insuline et l'insuline va augmenter de façon importante et elle va entraîner une hypoglycémie. Donc derrière un verre de coca, ben on a faim. Et c'est un cercle infernal. Donc c'est pour ça que les sucres rapides, il faut vraiment 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 limiter au maximum. Alors je dis pas qu'il faut pas en prendre, parce que ne pas en prendre, ce n'est pas non plus la solution. Mais réduisez au maximum. Et puis prenez vraiment que pour faire plaisir et en quantité limitée, etc. Alors pour la femme enceinte, les glucides entiers, non transformés, ça c'est systématique à tous les repas. La viande, au moins à un des repas, et variez, ne restez pas sur une viande. Viande rouge, viande blanche, poisson, les œufs. Pourquoi ? Parce que malheureusement, l'industrialisation a fait que les viandes ne sont plus d'excellente qualité. Il y a des hormones, il y a des antibiotiques. Alors après, il y a aussi des protéines qu'on va retrouver dans certaines légumineuses comme le quinoa, comme les fèves, comme il y a plein de légumes qui sont riches en protéines. L'hydratation, c'est très important pour la femme enceinte. Et voilà. Après, vraiment, il faut manger quand on a faim et ne pas manger quand on a faim. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. Il faut toujours s'arrêter avant la satiété. Et ça, c'est fondamental. Je ne sais pas si j'ai répondu à...
De toute façon, tu auras l'occasion de revenir dessus. C'est sur le diabète et le reste, en tant que médecin.
Alors oui, je réponds, je suis diabétique.
S'il te plaît, tu vas là.
Je lis la question et je réponds.
Comme elle n'entend pas.
D'accord. Je suis diabétique de type 2, je peux faire le ramadan. Je suppose que c'est une question. Il n'y a pas de point d'interrogation. Alors je réponds oui. Pourquoi ? Parce que le diabète est un problème d'insuline. Et les diabétiques de type 2, ils ont ce qu'on appelle une insulino-résistance. Donc on va leur donner des médicaments pour justement faciliter de stocker ce... Mais attention, et là je précise, il faut pas le faire seul. Il faut vraiment un vrai suivi médical. Le suivi médical... Alors les médecins en France, de façon globale, ils disent non. Pourquoi ? Parce que c'est un casse-tête quand même. C'est pas simple. Quand je dis il faut le surveiller, il faut mettre un carnet pour voir les contrôles glycémiques, les dextro. Ensuite, il faut qu'il lui donne la ration alimentaire pour répondre à ses besoins, pour maintenir le stock d'insuline qu'elle a à l'intérieur stable. Donc c'est vraiment beaucoup de surveillance et beaucoup de... Donc du coup, les médecins étant un peu dépassés, ne veulent pas trop se casser la tête, diabète, c'est pas utile. Alors diabète de type 1 sous insuline, non, il faut pas le faire. Ou alors il faut le faire, mais il faut le faire vraiment avec une... mais globalement, moi je vous le déconseille. Pour l'instant, c'est déconseillé. Le type 2, on peut le faire, mais à condition d'avoir un vrai suivi médical. Alors quand je dis suivi médical, à tout point de vue, revoir l'alimentation, recalculer les doses des médicaments, parce que si elle mange moins, il faut réduire moins, un programme d'activité physique, un peu de sport, voilà, c'est quand même un peu compliqué, hein. Je l'avoue que c'est pas simple. Mais si la personne a un médecin qui est prêt à l'aider pour jeûner, c'est même conseillé. Surtout selon certaines études réalisées notamment au Canada. Alors question encore sur le diabète. Je suis diabétique depuis 9 ans et pour équilibrer ce diabète, je prends 2 comprimés le matin, 1 comprimé le soir, l'insuline le soir. Voilà. Une attention sur l'alimentation de temps en temps. J'ai des hypoglycémies. Tournez. Que faire pour ne pas accentuer le déséquilibre au cours de ce mois? Alors, vous voyez, ça c'est un cas typique. C'est un diabète de type 2 qui a évolué, comme tous les diabètes de type 2, vers l'insuline. Parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'insulino-résistance. C'est-à-dire que le corps a du mal à répondre aux médicaments qu'on prend par voie orale. Donc, on instaure l'insuline pour justement équilibrer ce taux d'insuline par rapport à la physiologie. Et quand on arrive à ce stade-là, ben, c'est que il y a déjà les complications sont là. Et le diabète, ce qui est pervers dans le diabète, c'est que c'est une maladie qui est un peu silencieuse. On souffre pas, on a pas mal. Mais par contre, les petits vaisseaux au niveau des yeux, des reins et des extrémités peuvent être touchés parce que justement, ils rongent ce qu'on appelle les microangiopathies. Ils rongent ces petits vaisseaux qui abîment l'organe. Donc, pour répondre, je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère. C'est une sœur. Pour répondre à la sœur.
C'est un frère.
Ah, c'est un frère, pardon.
Ça, c'est toi, ça?
Donc, pour répondre, alors déjà, les comprimés, je ne sais pas de quoi, parce qu'il y a deux comprimés le matin, un comprimé le soir. C'est de la metformine.
Ça a beaucoup évolué, en fait. Hein.
Voilà.
Je suis suivi.
Ouais.
Avec vous. Et les données d'hospitalisation chaque nuit.
Ça, c'est le cas de l'évolution du diabète. On démarre toujours par une molécule qui est souvent la metformine, hein, le glucophage ou ce qui. Et puis, au fur et à mesure, en fonction des réponses par rapport à ce médicament, on va ajouter ou retirer ou modifier. Et quand on arrive à des stades assez mal équilibrés, ben là, malheureusement, on passe à l'insuline. Et l'insuline, au jour d'aujourd'hui, alors, je suis pas diabétologue, je suis pas endocrino, mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions là-dessus, parce que effectivement, l'insuline, quand on commence à injecter l'insuline, c'est que la situation est devenue quand même assez compliquée, et ça nécessite un suivi quand même assez régulier, avec un programme, avec beaucoup de choses. Il faut faire attention au poids, il faut faire des contrôles ophtalmiques, il faut faire des contrôles rénaux, les extrémités, tout ça.
Excusez-moi, monsieur.
Oui.
Mais moi, je me demande d'avoir enseigné, mais pour les diabétiques type 2, pareil que monsieur, je me suis rendu compte que les médecins et les diabétologues, ils mettent pas les mêmes traitements. C'est quoi ça, au juste? Ils mettent des cachets plus forts que l'autre, ils te mettent des cachets vraiment forts.
Alors, la question, la réponse n'est pas compliquée. La médecine n'est pas une science exacte. La médecine, on parle de l'art médical. Donc chaque médecin va apprécier en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il pratique, et il va donner. Alors les diabétologues et les endocrinos, c'est des spécialistes du diabète. Donc en principe, ils sont beaucoup plus fins en termes de prise en charge. Mais parfois, il y a des médecins généralistes qui ont beaucoup plus d'expérience et qui arrivent à équilibrer et à donner des traitements bien adaptés. Et,
parce que moi, je vous dis un truc. Moi, on m'a prescrit traitement 3 par jour. Donc, moi, je suis parti voir un autre, mais pour voir les traitements. Il y en a un qui m'a mis, j'en ai mis à 50 le matin, le 500 l'après-midi et le 500 le soir. Et le 1000, je ne le supportais pas au début. Ça me donnait un peu de remède. Je suis parti voir mon docteur de famille. Lui, il m'a mis que j'en ai mis à 50. Que le matin. Avec le jeune de 50, quand je fais une biochimie de sang, je suis bien. Je suis à 50.
Il faut, moi je dis un truc.
Je comprends pas pourquoi ils me mettent plus les autres.
Alors, en fait, c'est.
Je me dis si c'est pas un business.
C'est ce que j'allais vous dire. Il faut quand même, nous sommes des êtres humains, et dans les êtres humains, les médecins en font partie. Il y a des médecins qui sont.
Je sais pas, mais parce que quand ils nous mettent des traitements plus élevés, ils nous. On va aller plus vite, mais vers l'insuline, comme ça aussi.
Oui. Oui. D'où l'intérêt du jeûne.
Ouais.
D'où l'intérêt du jeûne. Même quand on a un diabète de type 2, mais au départ, hein, je parle pas comme monsieur ou peut-être comme vous, mais quand on a un diabète qui est léger, c'est vraiment fortement conseillé de jeûner. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un suivi, un vrai suivi médical. Et
je veux vous dire, on peut pas l'avoir.
On va, Charles, vous allez discuter après. Non. Parce que c'est un cas particulier là que vous prenez là.
Alors, donc ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. que manger pendant le ramadan quand on a les gamma GT élevés. Alors les gamma GT, ça c'est des enzymes hépatiques qui montrent que le foie est un petit peu en souffrance. Pourquoi le foie? Parce que le foie, imaginez, le foie c'est comme une sorte d'éponge qui va éponger la table. Donc tout ce qui se trouve sur la table va passer par le foie. Alors souvent les gamma GT, on va les retrouver chez les gens qui ont une grosse consommation d'alcool, mais aussi chez les gens qui ont une consommation importante en sucre. Et ce qu'on appelle le NASH en anglais, c'est les stéatoses hépatiques non alcooliques. Alors malheureusement, il y en a beaucoup, et il y en a même certains qui ne le savent pas. Le sucre, parce que le sucre, quand on le mange, on le stocke au niveau du foie, sous forme de glycogène et de triglycérides. Donc le foie est un gros réservoir de sucre. Et quand on a une grosse consommation de sucre en boisson sucrée, en pâtisserie, en tout, hein, ben on va avoir des gamma GT élevés. Donc que manger pendant le ramadan quand on a des gamma GT élevés? Ben il faut retirer tout ce qui est sucré et préférer les glucides simples, non transformés, entiers. C'est une femme. Qu'est-ce qu'une femme qui allaite doit manger pour éviter les coliques du bébé? Bon, effectivement, le lait maternel reflète l'alimentation de sa maman. Moi, je dirais, il faut manger équilibré. Il faut éviter de manger les choses qui fermentent, comme les pois chiches, comme le chou, tout ça. Après, quand il y a des coliques, il y a des traitements phytothérapeutiques comme le cumin, qui peuvent être très intéressants pour l'enfant, même les nouveau-nés. Hein. Qu'est-ce qu'une femme qui allaite doit manger pendant le ramadan? Là, c'est une question standard. Donc, c'est toujours les glucides simples, entiers, donc les céréales, le pain complet, tout ça. Les légumineux aussi. Ensuite, un peu de protéines, pas du tout de sucre et beaucoup d'eau. Le vinaigre. Quelqu'un qui tombe malade pendant le ramadan, exemple vomissement, doit-il continuer son jeûne? Là, peut-être c'est le chir qui...
C'est connu. Il faut continuer. Enfin, je sais pas le ce qu'ils ont. J'ai la question par rapport au jeûne, par rapport au vomissement. Celui qui vomit volontairement, son jeûne est rompu. Dans tous les cas, il faut continuer. Même celui qui ne supporte pas, qui a des petits problèmes, qui se met à vomir, on n'a pas le droit de continuer à aller se servir à la cuisine ou ailleurs parce que mon jeûne est rompu. Non, le jeûne est rompu, mais on doit quand même continuer. Et on doit refaire le jeûne pour celui qui le fait volontairement. Pour la personne qui vomit involontairement, elle n'a pas à ravaler, excusez-moi, c'est que vous gênez, il ne faut pas ravaler quoi que ce soit. Une fois qu'on ravale quelque chose, le jeûne est rompu, mais on doit quand même continuer. Mais si on a vomi involontairement, qu'on n'a rien ravalé, alhamdoulilah, le jeûne est valable, et on doit continuer dans tous les cas. Donc, pour répondre à la question, on continue dans tous les cas. Est-ce qu'il faut rattraper ou pas? On ne rattrape que si on a ravalé quelque chose, ou si on a fait exprès. Si on n'a pas fait exprès, alhamdoulilah, et qu'on n'a pas ravalé, il n'y a pas à refaire le jeûne.
Là, j'ai une très bonne question. Vaut-il manger... Enfin, je pense que c'est faut-il manger des choses légères ou lourdes pour tenir toute la journée? C'est pas le poids qui compte, c'est la charge qui compte. Alors donc c'est pour ça que les glucides, c'est important d'avoir une consommation quotidienne parce qu'on a besoin de sucre, c'est de l'énergie. Mais il faut mieux de l'énergie saine. Et l'énergie saine, c'est les glucides entiers, simples, non transformés, etc. Quels sont les aliments à éviter et au contraire préférables? Donc là aussi, les aliments à éviter, c'est le sucre, hein, je répète, et préférer plutôt les sucres lents, hein, qu'on appelle, ou les index glycémiques bas pour les puristes.
D'accord. Médical, après on passe au général.
Salam alaikum. Pouvez-vous nous donner votre avis sur le jeûne des personnes âgées au-delà de 75 ans, avec plus ou moins des pathologies chroniques? Quels sont les cas où le jeûne est déconseillé? Alors, là, les textes coraniques, en tout cas, sont clairs. C'est au cas par cas, c'est en fonction. Si c'est une personne qui est âgée mais qui peut supporter le jeûne, même si elle a des pathologies chroniques, c'est bien pour elle, parce que le fait de jeûner, encore une fois, c'est une, ça permet de ressourcer l'organisme, ça permet de vider les stocks d'énergie qui restent, qui stockent. Imaginez un endroit où on met de l'eau, et c'est une eau stagnante. À un moment donné, cette eau, elle devient complètement... Par contre, si c'est un endroit qui tourne, ben l'eau peut être potable, comestible, c'est la même chose.
Par rapport à l'eau en général, et après...
Au niveau de l'eau, il est recommandé de boire 1,5 litre quand pour une journée, sans jeûne. Oui, il faut boire, parce que effectivement, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. L'eau, c'est quelque chose de fondamental, et l'eau, il faut vraiment avoir une consommation de préférence, ne pas boire 1,5 litre d'un coup, de boire par à coup. Pour le repas du suhoor, quel aliment est-il conseillé? Les glucides sains, les pain complet, etc. Même les matières grasses, hein, l'huile d'olive, c'est bien l'huile d'olive. Les noix, noisettes, bien sûr non grillées, non salées, etc.
Pour le jeu.
Peut-on faire une activité sportive, musculation, course footing? À quel moment de la journée doit-on privilégier le sport? Quel genre d'activité physique doit-on privilégier? Bon, très bonne question. Oui, bien sûr qu'on peut faire le sport, mais il faut mieux privilégier le sport une heure avant la rupture du jeûne. Pourquoi? Parce que on va puiser sur les réserves énergétiques, donc du coup on sera un peu en hypoglycémie. Il faut pas le faire à midi où il fait chaud et on va se déshydrater. Donc plutôt le soir avant le maghrib. Quel genre d'activité physique doit-on privilégier? Ce que vous voulez. Mais l'endurance, c'est bien. Tout ce qui est cardio, tout ça, c'est bien, parce que ça permet de puiser sur les stocks. Plus l'effort en activité physique, ça c'est important. Quand on fait un effort, la première énergie qui est disponible, c'est le sucre rapide qu'on a à ingérer. C'est les sucres facilement disponibles qui sont dans le frigo. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais cette quantité de sucre, elle est limitée. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on peut plus. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va courir 100 mètres, mais à fond, ben au bout de 100 mètres, il est épuisé, il peut plus faire un mouvement. Tandis que quelqu'un qui fait un petit footing ou qui marche vite, ben il peut marcher des kilomètres. Pourquoi? Parce que quand il commence l'effort, il va puiser sur les sucres. Et une fois qu'il a fini le sucre, enfin, c'est pas une fois, les réserves en gras vont commencer à se transformer dès le départ. Mais quand il y aura plus de sucre, le relais est pris par les lipides, par la matière grasse. Donc, tous les sports, il n'y a pas de contre-indication, mais privilégiez plutôt les sports d'endurance pour aller puiser sur les mouvements d'insuline et autres.
Là, tu as le résumé de pratiquement tout ça. C'était sur, on te demande des conseils, quel aliment que prendre au petit déjeuner, qu'est-ce qui est le mieux, y a-t-il des aliments chauds, froids, humides, secs à privilégier pendant le ramadan, quel aliment privilégier pendant le ramadan, au soub, au maghreb, quelle est la meilleure façon de s'alimenter au fajr et au maghreb, bon, y a-t-il des aliments à consommer plus, exemple kéfir, pour recréer ou renforcer notre
kéfir, il y a de l'alcool, hein, pour info. Hein? Dans le kéfir, il y a de l'alcool.
Bon.
C'est un fromage.
Donc, bon.
Il faut limiter.
J'espère qu'elle se reconnaît. De quel aliment se nourrissaient nos prédécesseurs? Donc, tout ça, c'est sur l'alimentation. Ouais. Et ça, tu as déjà répondu pour de nombreuses personnes, 2-3 premiers jours, ramadan, une migraine est installée. Comment l'expliquez-vous? Mais ça, tu l'avais déjà commencé.
Parce que on attaque les sucres rapides, donc on vide. Donc finalement, on réduit les dépenses énergétiques. Et il y a le froid, la faim, la fatigue qui s'installe. Et donc la migraine, etc. Et au bout de 2-3 jours, quand on a pris le rythme de croisière, ben là, on est en train de vider les stocks en acide gras. Et on se porte bien. Globalement, pour l'alimentation, pour résumer. Parce que on a parlé un peu de tout. Il faut avoir une source énergétique. Source énergétique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a lipides et glucides. Donc, parmi les lipides, c'est l'huile d'olive, c'est tous les fruits secs, mais naturels. Et parmi les glucides, ben, tout ce qui est glucides entiers, non transformés. Ensuite, l'eau, ça, il faut vraiment avoir une consommation hydrique importante. Bon, alhamdoulilah, il fait pas très chaud, mais même s'il fait pas chaud, on a besoin d'eau. Donc, il faut boire. Particulièrement les personnes âgées, parce que ils n'ont pas les signes de la soif, et la femme enceinte. La protéine, c'est bien d'en consommer, mais variée, ne restez pas sur une sorte de viande, viande blanche, viande rouge, poisson, les œufs, mais toujours en quantité limitée. Il faut pas avoir une consommation importante à tous les repas. Pour ce qui est du suhoor, de préférence, les glucides. Les sucres à index glycémique bas. Les sucres à charge glycémique bas. C'est-à-dire tout ce qui est riz, pommes de terre, semoule, etc. Mais vérifiez toujours les index glycémiques. Plus l'index glycémique il est bas, et meilleur sera le sucre. Bien sûr, non transformé, non raffiné, etc. etc. Et arrêter complètement les sucres. Les sucres, franchement, ça c'est... Parce que même dans l'alimentation normale, il y a beaucoup de sucre. Même dans les produits que vous achetez, que vous pensez où il n'y a pas de sucre, au fait, il y a du sucre. Et ça, c'est une astuce un peu industrielle. Parce que quand ils mettent du sucre, ils vont augmenter l'insuline. Ils augmentent l'insuline, ils vont vous pousser à la consommation. Et vous allez toujours être addict à la consommation. Donc vraiment la recommandation, freiner les sucres. Pour le phtor, il faut aussi avoir une charge glucidique pour remonter, parce que la glycémie elle est basse, mais il faut pas prendre du coca ou des trucs comme ça, parce que quand on prend un sucre rapide comme ça, là il va y avoir un flash d'insuline qui va complètement perturber l'organisme et qui va freiner justement l'accès au congélateur pour aller puiser sur l'énergie lourde. On peut appeler ça comme ça.
Dernière question.
Je veux savoir, est-ce que un diabétique peut consommer des dattes pendant le Ramadan? Si oui, à quel moment?
Alors, c'est une question un peu piège, mais oui, bien sûr que vous pouvez consommer. En fait, vous pouvez tout consommer, c'est pas un souci.
La question, si tu peux la dire au micro.
Ah, le monsieur il demande si un diabétique peut consommer des dattes et à quel moment. Donc la réponse, bien sûr, on peut consommer tout, il n'y a pas d'interdit quelque part. Mais il faut pas avoir une consommation, faut pas une ou trois selon la sunna, histoire de rompre un peu le jeûne. Ça permet un petit peu de redresser la charge glycémique, parce que quand on arrive au Maghreb, on est tous on a tous les réservoirs vides, donc il faut les charger pour pouvoir tenir. Et c'est vrai que les dattes, ils ont un pouvoir très sucrant, très intéressant. Et bien sûr, il faut rompre le jeûne avec une datte. Alors pour les diabétiques, évidemment, il faut pas beaucoup. Une à trois dattes, c'est suffisant. Ça peut être suffisant.
Ça concerne le jeûne, mais pas le jeûne du Ramadan. Si je veux juste avoir un petit sur le jeûne intermittent, j'ai lu que c'était à partir de 14 heures en jeûne, et que il y avait, enfin, je sais pas, je crois, une petite polémique là-dessus où certains sont contre, certains sont. Et quel est votre avis dessus? Et surtout, est-ce que c'est déconseillé, par exemple, quelqu'un qui fait jeûne intermittent, mais par exemple tous les jours? Est-ce que c'est une mauvaise chose, ou plutôt est-ce que c'est quelque chose qui serait...
Wallahi, comme toute chose nouvelle, il y a des écoles. La question, il me pose. C'est moi, j'ai pas le réflexe. Donc, la question dans la salle, c'est par rapport au jeûne intermittent, est-ce qu'on peut le pratiquer, durant l'année, à quelle fréquence et quelle est la durée du jeûne intermittent. Là, c'est des écoles. C'est des écoles qui vont... chacun va apporter ses arguments. Il y en a qui parlent de... Lui, c'est un Canadien qui a une clinique qui fait le jeûne intermittent. Il n'a pas de recommandation particulière, justement. Il laisse libre à la personne de faire ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que c'est en fonction de la capacité de l'un et de l'autre. Il y a des gens qui vont tenir longtemps avec un jeûne intermittent, et puis il y en a d'autres qui, au bout de 6 heures ou de 4 heures, ils n'en peuvent plus. D'ailleurs, il disait même un truc qui est intéressant, il faut faire attention quand quelqu'un pratique, lui il part du jeûne intermittent, qu'il faut éviter de le dire un peu à tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens dans leur tête, même si vous, alors vous jeûnez, vous buvez pas, même pas un verre d'eau, et c'est récurrent, c'est des trucs... Donc, à la longue, ça fatigue et ça peut démotiver. Et, alhamdoulilah, on l'a fait depuis un certain nombre d'années, on est toujours vivant, on n'a pas eu de problème, et ça se passe super bien. Mais à force de fréquenter des gens comme ça, ben on commence à fatiguer, à se douter de pas mal de choses. Et il le dit dans son livre, il dit, il faut mieux ne pas le dire aux gens qui ne savent pas. Maintenant, s'il y a des gens qui ont pratiqué et qui, c'est bien de leur parler parce que ils peuvent vous renforcer. Comme quoi, et ça, on l'a dans notre pratique. Donc le jeûne intermittent, moi, je le pratique pas. Quand j'essaie de pratiquer, je pratique plutôt le jeûne classique parce que je reste convaincu de son efficacité médicale, même si aujourd'hui on n'a pas encore, de par notre faute peut-être, hein, parce que les études qui ont été menées par rapport à notre jeûne tel qu'on le pratique aujourd'hui, ont été faussés par le gavage du soir. Parce qu'il y a eu des études hein, qui ont été faites, mais qui n'ont pas été significatives, parce que l'alimentation le soir, elle est hyper glucidique, donc elle fausse tous les résultats. Donc du coup, les résultats qu'on a, bah, on a des déshydratations, on a aucun bénéfice, quoi. Donc c'est à nous d'améliorer les choses, et puis si un jour, Inch'Allah, il y a des volontaires... Parce qu'il y a du gras. Il y a du gras. Après, c'est au cas par cas. Hein. La médecine n'est pas... Le monsieur, il parle de migraines. Quand il boit du lait, fermenté, le ben, voilà, ça c'est des, et oui, parce que ça c'est des matières qui sont riches en matières grasses. Donc ce qui fait que forcément ça peut entraîner des dyslipidémies, ça peut boucher des vaisseaux, ça peut entraîner des, alors attention, le gars qui boit un verre de le ben, c'est rien. Mais si la consommation est importante, après, ça dépend aussi de l'association. Si la viande de mouton, effectivement, elle est très grasse, et c'est pour ça qu'il faut varier, il faut pas rester sur une variété. Privilégier plusieurs types de viande.
Juste, qu'est-ce que vous pensez de prendre au petit déjeuner en dehors du ramadan?
Alors, en dehors du ramadan, moi j'avais... Donc, le frère il pose la question, qu'est-ce qu'on peut prendre au petit déjeuner, en dehors du ramadan? Donc, ce que je disais déjà, dans le mot petit déjeuner, il y a petit, donc... bon, maintenant les gens qui ont faim, bien sûr, il faut qu'ils mangent, hein. Je dis pas qu'il faut pas manger, mais ce qu'il faut manger, il faut plutôt privilégier les aliments entiers et non transformés. Alors, les aliments entiers, ça peut être de l'avoine, ça peut être... des œufs brouillés, omelette, dure, ce que vous voulez, du pain complet, les jus, moi je suis pas fan, je préfère un fruit, parce qu'un jus d'orange, même si c'est l'orange hein, qui est pressé, c'est que du jus. Et le jus, dans le jus, il y a du fructose. Et le fructose, en ce moment, il y a des études qui disent que le fructose, il est pas terrible. Alors que quand on prend le fruit complet, il y a des fibres dedans. Et ces fibres vont permettre de réduire la charge de sucre. Donc plutôt un fruit. Et puis, bien s'hydrater. Donc thé, fusion...
Voilà. On va arrêter, Charles, parce qu'il y a un cours d'arabe après.
Malgré tout, c'est comme... اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.